s'intéresser à ce qu'on peut qualifier de fléau, la solitude. Vous savez que la Grande-Bretagne vient de créer un secrétariat d'État destiné à lutter contre la solitude. Moi, ça m'a quand même assez interpellée. En Grande-Bretagne, en Angleterre, 200 000 personnes passent souvent un mois sans parler à personne. En France, les chiffres ne sont guère plus réjouissants. On parle de 300 000 personnes de plus de 60 ans en situation, on dit carrément, de mort sociale. Et en plus, en Belgique, bah, c'est pas beau non plus.
5 millions de Français, on peut penser. Et en Belgique, on sait qu'on est 2 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc au lieu de plus ou moins 6%, on est à 8% de personnes qui souffrent de grave solitude. Ça, plus ou moins 800 000 personnes en Belgique qui souffrent de cela. Alors, on parle ici bien sûr de solitude, non pas choisie, mais une solitude imposée par la vie. Parce que quand c'est choisi, il n'y a que des grands philosophes misanthropes comme Nietzsche qui disait « Souffrir de la solitude est un mauvais signe, je n'ai jamais souffert que de la multitude ». Et Schopenhauer qui dit que la solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé deux avantages. Le premier d'être avec soi-même et le second de ne pas être avec les autres.
Ah, joli.
Mais alors quand on oublie ces deux-là et qu'on pense à la grande majorité, c'est plutôt ce que Victor Hugo appelait une des 7 plaies béantes de la misère. Ouais. Et une méta-analyse, donc une étude qui a analysé plus de 3 400 000 personnes, a montré que la solitude, que ce soit subjective, donc je me sens seul ou objectif, quelqu'un qui est isolé socialement, qui n'a personne à qui parler, ça augmente pratiquement de 30% le risque de mortalité, ce qui est énorme. Alors on sait aussi que c'est aussi toxique que le tabagisme ou l'alcoolisme. Et des études ont montré que ça avait un effet sur le système immunitaire. Et donc les personnes qui souffrent de solitude ont une réponse immunitaire moins efficace que les autres, une moins bonne réponse immunitaire. Et donc c'est un véritable défi de santé publique.
On a quand même l'impression que ces chiffres que vous venez de nous distiller là, concernant la solitude sont quand même un baromètre d'une société qui ne fonctionne plus bien, où notamment les aînés sont souvent laissés sur le côté, mis en maison de repos. On parle des personnes âgées, mais il y a aussi des gens beaucoup plus jeunes qui sont simplement seuls, il n'y a plus de contact familial. La société les laisse sur le coin. C'est pas bon ça en termes d'image de notre civilisation, non?
Oui, on peut penser à notre civilisation moderne avec tout ce que l'individualisme nous a apporté, évidemment, en termes d'émancipation par rapport aux carcans sociaux, mais avec beaucoup, beaucoup de souffrance aujourd'hui. Donc ce cloisonnement, on met tout le monde dans des boîtes, hein. Les âgés dans une boîte, les enfants dans une boîte, on sépare les choses. On peut penser aussi aux changements sociaux. 30% des familles aujourd'hui sont des familles monoparentales et en cela, 85% d'entre elles sont des femmes seules. Et donc les femmes souffrent davantage que les hommes de la solitude. Et elles ont vraiment une double peine parce que les femmes sont davantage cultivées aujourd'hui et davantage intelligentes. Et on sait que l'intelligence, contrairement à ce que les hommes racontent, fait davantage peur aux hommes que le contraire. Et donc elles vont se retrouver avec plus de difficultés aussi de trouver un conjoint. Et donc ça fait des choses très difficiles. On peut penser aux réseaux sociaux qui ont un effet pervers aujourd'hui. Les commerces de proximité, qui étaient la première ligne, on va dire, des liens sociaux. On se retrouve à commander, à manger sur Internet. On se retrouve à faire notre banque sur Internet. Et donc, les services publics, les services de proximité sont de plus en plus réduits. Et je pense à ce ministère britannique pour la solitude. Attention aux effets d'annonce. Un gouvernement qui va réduire, sous couvert d'austérité, tout ce qui sont les prestations sociales, et donc les bibliothèques par exemple, ou les services de proximité, qui à côté va dire on va mettre un ministère pour s'en occuper, ça ne me paraît pas tellement cohérent, puisque la première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour cultiver justement des endroits où on va pouvoir avoir du lien.
Mais ce qui est vrai, vous parliez à l'instant des réseaux sociaux, on pense au Facebook & Co, on a 300, 200 amis, 20, 25, et finalement tout ça c'est creux, on se sent malgré tout in fine souvent très très seul. Quelles sont les solutions finalement pour enrayer cette solitude? Parce que c'est un changement de fond de notre culture, de notre société qui doit s'imposer là.
Donc le contraire de la solitude, c'est le lien. Et donc comment est-ce qu'on va créer du lien? Par exemple entre les enfants et les personnes âgées, des initiatives où on amène des enfants d'école maternelle dans des endroits où vivent les personnes âgées, et ça bénéficie tout autant aux enfants qu'aux personnes âgées.
L'intergénérationnel,
même dans les habitats, les rues en transition. Ce qu'on va faire, c'est dans nos rues des potagers collectifs, des poulaillers collectifs, et vraiment autour de projets communs, comment est-ce qu'on va créer du lien. Ce que je crois que de manière beaucoup plus générale, l'idée c'est comment est-ce qu'on va tisser les 1000 fils d'une vie et d'une société relationnelle, et donc cultiver, entretenir et réparer nos liens avec nos proches, dans la vie quotidienne avec nos voisins, l'épicier, le conducteur du tram ou la caissière. Quel sourire aujourd'hui allez-vous déclencher? Quelle relation aujourd'hui allons-nous nourrir?
Ah, bah écoutez, c'est à midi.